La semaine du 14 décembre 2018, il est essentiel, parce qu'on reçoit le baptême, c'est pas de rentrer dans une religion. Le Christ n'est pas venu ici pour nous apporter une nouvelle religion. On appellerait la religion protestante, catholique, orthodoxe, tout ce que vous voulez. Ça, c'est les humains. Ça, c'est écrit nulle part dans les évangiles. L'essentiel, ce que le Christ nous a apporté, ce que les catholiques, les chrétiens du mal à vivre, moi, en fait, je me convertis quand je vois ça de l'extérieur, c'est dit très clairement dans le prologue de Saint Jean, à tout celui qui l'accueille, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est une nouvelle naissance. Cette naissance n'est pas vécue dans les églises. Et c'est pour ça qu'il y aura la division. Parce qu'on ne dit pas qu'on est enfant de Dieu. Et tant qu'on ne dira pas qu'on est enfant de Dieu, pour moi, je dis que ça ne sert à rien de prier pour l'unité des églises. Pour moi, personnellement, on ne peut prier pour l'unité des églises à partir du moment où on prend conscience qu'on est une seule famille. À partir du moment où on prend conscience qu'on est enfant de Dieu. Tant que je ne prends pas conscience que j'ai une nouvelle nature, que mon deuxième livre que j'ai écrit, Oser être soi-même, que à part la nature d'être créé par Dieu, j'ai une nouvelle nature en moi qui vient d'en haut, comme Jésus dirait Nicodème, il faut naître d'en haut. Et comme Jean répétera dans sa première épître, nous sommes, on regarde avec tel grand amour que Dieu nous a manifesté, qu'il nous a appelés à être enfants de Dieu et on l'est déjà, ça ne sert à rien de prier pour l'unité des églises. Si on ne prend pas conscience qu'on est enfant de Dieu et qu'on n'est pas seulement une créature humaine. Ça, c'est extrêmement important et c'est pour ça que je dis que je suis votre petit frère concrètement. Parce que cette naissance, j'ai reçue le 14 septembre 2008. Donc, je ne suis pas rentré dans une nouvelle religion, pour pratiquer une religion X ou Y, j'accueille cette nouvelle naissance. Et ça, c'est extrêmement important, excusez-moi l'expression, de remettre les choses un petit peu en place, ou au centre, et ou l'essentiel. Parce que sinon, on pourra faire toutes les prières, on pourra faire toutes les adorations, on pourra faire toutes les messes, si on ne prend pas conscience que d'abord, à la source, pourquoi le Christ s'incarne, pour qu'on puisse devenir d'abord enfant de Dieu, on ne sera pas dans notre appel chrétien. Alors pour ça, bien sûr, il nous a rachetés à la croix, c'est pour ça que Jean la portera après, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, mais l'essentiel, c'est cette naissance-là. Et à chaque fois, quand je fais mon témoignage, je fais des conférences, j'appuie énormément sur ce point-là, sur cette réalité, que nous ne sommes pas uniquement des créatures de Dieu, nous sommes nés de Dieu. C'est une nouvelle naissance, c'est extrêmement important. Et on n'est pas là pour pratiquer une religion, ni des rites, ni des rituels. Parce que sinon, il n'y a pas besoin d'incarnation. Moi, j'ai resté dans le judaïsme. Je n'ai pas besoin de me convertir. Je n'ai pas besoin d'adhérer au Christ. Il ne m'apporte rien le Christ, si tu pourrais faire du copier-coller. Et Dieu me pardonnait déjà mes péchés le jour du Kippour. Le jour du grand pardon, le grand prêtre du Panan, même si lui doit tracer ses péchés comme dit l'être d'Hébreu, une fois l'an, et d'abord les Juifs à la synagogue font la même chose encore aujourd'hui, ils se font pardonner le péché une fois l'an. Donc voilà, si c'est pour faire du copier-coller, j'ai pas besoin d'adhérer au Christ. Pierre n'a pas besoin d'adhérer au Christ, Jean n'a pas besoin d'adhérer au Christ, Jacques n'a pas besoin d'adhérer au Christ, et tous les premiers Juifs n'ont pas besoin d'adhérer au Christ, et ni Paul non plus, pour faire du copier-coller. Donc il a fallu apporter quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, même si on est dans une continuité. C'est quelque chose de nouveau, c'est pas une religion. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, je suis votre petit frère parce que je suis arrivé, ça, le 14 septembre 2008. Pourquoi le 14 septembre 2008? Tout simplement parce qu'au départ, les gens que j'ai rencontrés en départ, c'était des gens de l'Église catholique. Et le 14 septembre, c'est la fête de la croix glorieuse. Et moi j'ai toujours déterré par Jésus sur la croix. Mais il y a deux regards différents entre un Jésus sur la croix avec le regard occidental et le regard juif. C'est pour ça que les occidentaux, ils ont besoin de passer par deux étapes. Que ce soit les catholiques ou que ce soit les protestants et les évangéliques. C'est-à-dire qu'ils vont passer à un Jésus crucifié d'un passé ou un Jésus, une croix glorieuse, Jésus n'est plus dans le tombeau, il est totalement ressuscité. Pourquoi? Parce que l'esprit occidental va s'arrêter sur ce qui se passe sur la croix. Les souffrances, l'amour qui se donne, surtout les fruits, à tel point qu'il y aura des commentaires, on dira que le soldat romain qui transperce le cœur du Christ correspond au sacrement. Bon, un juif ne regarde pas la crucifixion comme ça, pas du tout. Et l'apôtre Paul le dira. Il y a deux façons de regarder la crucifixion. Folie pour les Grecs, folie pour les païens. La crucifixion, c'est d'abord une folie pour les païens. Donc une folie pour l'intelligence non-juive. Elle n'est pas folie pour l'intelligence juive, mais elle est scandale. Et qu'est-ce qui fait scandale? la personne. Donc il y a deux regards différents sur la crucifixion. Deux regards. Et moi, ce qui m'intéresse sur la crucifixion, c'est pas ce qui se passe, c'est le bonhomme. C'est moi l'expression. C'est la personne. Et donc je suis attiré par cette personne. Je suis pas attiré par ce lieu, ce qui se passe, qui a y rester. Je suis attiré par cette personne-là. Et donc voilà, les choses vont s'intensifier et je vais rentrer dans une église. Et je ne peux pas rentrer dans l'église à côté de chez moi parce que j'ai peur de me faire attraper, tout simplement. Bon, parce que moi déjà, à l'âge de 12-13 ans, j'ai dans une école juive. Donc mon père est juif, ma mère est juive, il n'est pas question de fréquenter, de rentrer dans une église. Il est encore moins question de parler de Jésus à la maison. Et donc voilà, la première église où je vais aller en cachette, parce que je sais qu'il y a du monde, et donc je ne me ferai pas attraper, c'est le Sacré-Cœur de Montmartre. Je me dis, il y a du monde, je ne me ferai pas attraper. Et donc voilà, je vais au Sacré-Cœur de Montmartre, je fais ma petite promenade, et lorsque je sors du Sacré-Cœur, je me dis, moi je me sens bien ici, j'y retournerai. Et donc c'est ce qui va se passer, je retourne au Sacré-Cœur de Montmartre, et donc la basilique est remplie, je mets le quatrième rang, à partir de l'hôtel, et tout d'un coup je me laisse pour partir, et tout d'un coup je me vois que lorsque je me laisse pour partir, je suis seul avec debout, tout le monde est assis. Et donc je me dis, bon franchement ça se fait pas, il y a que moi qui est debout, tout le monde est assis, je partirai en même temps que tout le monde. Et en fait ce que je ne sais pas, c'est que le Seigneur, ben, je vais participer à une messe. J'ai à peine 13 ans, je suis juif, je suis dans une école juive. Au moment où le prêtre fait la consécration, je me mets en rang comme tout le monde. Mais comme je ne sais pas moi ce que les catholiques répondent à l'époque, je n'ai pas de me faire attraper. Donc je me mets en dernier. À la fin, à l'époque, dans le monde catholique, on reçoit la communion au genou, au Sacré-Cœur de Montmartre. Bon, aujourd'hui ça a changé, dans beaucoup d'endroits, mais on reçoit la communion au genou directement dans la bouche. Et on est derrière les barrières. Donc moi je me mets en dernier, à l'extrême droite, pour entendre le voisin de mon voisin de mon voisin, qui va dire, au moment où il va recevoir dans ma tête, je me dis la chose, parce que moi je ne mets pas la communion, ni corps du Christ, ni rien du tout. Quand arrive une tour, il dit, le prêtre dit le corps du Christ, bon j'ai rien compris, je dis Amen et j'aime pas toi. Il n'y a rien d'extraordinaire qui va se passer. Si ce n'est quand même quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur saute les barrières et les lois de l'Église catholique ou orthodoxe pour permettre à un petit juif de recevoir la communion. Parce que maintenant, pour recevoir la communion, chez les catholiques ou chez les orthodoxes, il faut recevoir le baptême. Donc mon témoignage permet aussi d'exprimer que ce que dit l'apôtre Jean dans l'évangile de chapitre 3, ce n'est pas du tout que l'Esprit Saint. Alors il y a des règles chez les orthodoxes, mais aussi des règles chez les catholiques. Je suis en train d'écrire un livre où je me demande si des fois l'Église catholique n'est pas devenue plus pharisienne plus que les pharisiens, mais ça c'est encore autre chose. Et à travers mon témoignage, en tout cas je montre que l'Esprit Saint et Dieu a une certaine liberté, parce que donner le désir de recevoir la communion dans l'Église catholique à un juif qui n'est pas pour converti au catholicisme, bon, d'ailleurs il y aura des problèmes après pour ma préparation baptême. Parce que moi, quand je rentre chez moi à la maison, je me dis, bah, c'est super, je vais recommencer. Et je vais recommencer comme ça. Et donc en même temps, je vais à l'école juive, et en même temps, je vais au Sacré-Cœur de Montmartre, c'est la seule église que je connais. Non, les seuls qui sont vite à faire la porte, c'est les témoins de Jéhovah. Non mais c'est vrai, vous rigolez, mais c'est vrai franchement. Moi c'est vrai, ça fait de la peine parce qu'on parle beaucoup de la nouvelle évangélisation dans le monde catholique, je ne vois pas tellement évangéliser. Moi j'ai vu de Vitry 94. Les seuls que j'y vais encore quand je suis parti au marché, c'est les musulmans qui sont en train d'évangéliser, excusez-moi, les musulmans et tout le monde, au marché. J'ai vu les témoins de Jéhovah, ils ont sorti même des fascicules en arabe, où ils donnent. Donc ils n'ont pas peur, ils vont, mais avec les musulmans, ils discutent, tatati, tatata, ils mangent les bois, ils discutent même avec les femmes voilées. Donc les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, à Vitry, 94. Et j'ai vu, et je ne me suis pas arrêté cette fois-ci par un courant évangéliste baptiste. Là j'ai dit, tiens, c'est nouveau ça, moi je ne connaissais pas, c'est quoi ce courant évangéliste baptiste, donc j'ai commencé à discuter avec eux pour savoir de quoi leur ressortait. Et donc ils étaient là, et ils distribuaient aussi des papiers. Les seuls que je vois pas, c'est les cathos. Non mais c'est vrai, franchement, alors, moi je veux bien une prière, un machin, des trucs, et ouais, ok, d'accord, mais concrètement, j'ai vu une partie sur le terrain, quoi. Donc s'il y a une prière qui est à faire, c'est des prières un peu plus concrètes, peut-être, de demander peut-être aux catholiques de ne pas avoir peur, je crois qu'il y a une prière qui a été demandée de faire, de ne pas avoir peur, voilà, d'annoncer véritablement le Christ dans la société. En tout cas, les choses vont continuer comme ça jusqu'à l'âge de 17 ans. Et à l'âge de 17 ans, j'ai décidé de recevoir le baptême. Entre temps, j'avais acheté l'évangile. Donc je lisais en cachette l'évangile pour pas me faire attraper. Bon, j'ai lu l'évangile, vous connaissez l'évangile mieux que moi, parce que moi j'ai à peine 8 ans, donc je suis en classe de primaire. L'évangile, vous connaissez l'histoire avec Philippe, le diacre. L'Esprit Saint, il souffle, l'idiot. Faut aller voir un éthiopien là-bas, tu veux lui expliquer un passage. L'éthiopien sur place, il lui explique le passage, tatati, tatata, l'éthiopien dit, mais il n'y a pas de raison, mon frère, maintenant je ne recevrai pas la flaque d'eau, le baptême, c'est une fontaine. Et tout de suite, Philippe le baptise. Je dis, mais ça va, c'est super, pour recevoir la flaque d'eau, il besoin de sortir de Saint-Cyr. Moi, je connais que le pétriqueur de Montmartre, je sais qu'à 18h, il distribue la chose, moi, je ne sais pas ce que c'était, voilà, la communion, je ne sais pas quoi décrit. Je me je pointe à 17h, je leur donne une heure pour recevoir la flaque d'eau, et après, voilà, je vais recevoir la communion. J'arrive au sacré-cœur de Montmartre à 17h, moi je suis tout chaud, tout le fort, tout cela, hein, tout en joie, j'ai mon évangile, en cachet, je connais le passage, je cherche un prêtre, on me dit c'est en train de confesser. Moi je me sais très bien, je vais me confesser, donc je prends la queue. Arrive mon tour. Bonjour mon fils, j'ai bonjour monsieur le prêtre. Mais ça va, c'est du prêtre, tu vas voir. Il me dit, je vous écoute, je dis, voilà, c'est très simple, je suis juif et je souhaiterais me convertir. Le prêtre. Silence radio. Et tout d'un coup, j'entends, quoi? Alors j'ai senti que c'est pas passé. J'ai pas compris pourquoi c'est pas passé, mais j'ai senti que c'est pas passé. Alors je dis, bon, il va falloir que je réitère ma demande autrement. Alors j'ai dit, monsieur le prêtre, Jésus, il était juif. Ça, vous le savez. Monsieur le prêtre, les premiers apôtres, ils étaient juifs. Lorsque les premiers apôtres ont suivi le Christ, lorsqu'ils ont reçu l'Esprit Saint et la résurrection, Jésus, il a pas dit quoi? Monsieur le prêtre, je viens ici pour recevoir simplement la flaque d'eau. Vous connaissez les évangiles, vous avez de l'eau, voilà, fini. Et c'est terminé, tchic-tchac, et après je vais aller faire ce que je dois faire. Voilà, c'est tout. Le prêtre, il m'a pris pour un fou, pour un débile, j'en sais rien, pourtant moi c'est simple, c'est écrit dans les évangiles à table d'eau, pourquoi aller chercher midi à 14h? Ça, c'est simple comme ça. Il dit, il sort de son confessionnal, il me dit surtout, j'ai jusqu'à quelle heure? 18h?
Oui, je vais montrer. Hein.
D'accord. J'ai jusqu'à 18h parce que ça dure longtemps généralement, ils vont
pas dire. Non, pas jusqu'à 18h.
Ah d'accord, c'est bon.
Vous avez encore le temps.
Ah. Et il me dit, surtout ne bougez pas d'ici. Attendez-moi. Bon. Il sort, il est seul. Alors je sais pas s'il est parti voir, c'est que le recteur, j'en sais rien, moi. Mais il retourne, ça dure trop longtemps. Je sors du sacré-cœur. C'est pas le moment. Quand c'est pas le temps de Dieu, c'est pas le temps de Dieu. Même lorsqu'on a des bonnes décisions à prendre. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. L'apôtre Paul le dira. Lorsqu'est venue la plénitude de temps, c'est à ce moment-là que Dieu s'est incarné. Pas avant, et pas après, et pas maintenant. Bon, ça ne m'empêchera pas d'y retourner. À 18 ans, une fois que j'ai terminé mon premier cycle d'année d'études, je me dis, voilà, franchement, si tu es appelé par bon Dieu, au lieu d'aller dans une autre religion, il faut aller dans ta propre religion. Et je pars en Terre Sainte. Là-bas, je resterai 8 années d'affilée, où je referai donc une formation rabbinique. Donc je ne serai pas comme ça, j'aurai la barbe. Le chapeau comme un peu Rabbi Jacob. La barbe, le chapeau, d'accord. Et donc je vais étudier là-bas de la philosophie, la théologie, voilà, un séminaire où je vais étudier pour une formation rabbinique. Ensuite, je vais parachuter à Grenoble, ma première année de rabbin. Mais en vérité, la synagogue fonctionne comme l'église, j'ai plutôt l'inverse au niveau du temps. C'est-à-dire qu'il y a un rabbin principal comme la curée principale, et tu as des prêtres autour qui aident. Et donc, tu as des rabbins qui vont aider. Donc pendant un an, je suis parti pour aller aider le rabbin principal. Et puis, à la fin de l'année scolaire, je me marie. J'ai 26 ans. Et avec ma femme, donc on décide de repartir en Terre Sainte et je continue encore plus mes années de formation. Je vais rester à peu près encore 2 ans et là, nous retournons en France. Donc il y a Rachel qui va aller en 94 et ensuite il y a Rebecca, Déborah qui va être en 95, il y a Rebecca qui va être en 96 et il y a Myriam qui va être en 97. Ensuite il y a Joseph Raphaël qui va être en 99, il y a Gabriel qui va être en 2001. Et ma femme est enceinte de ses enfants, mais à ce moment-là, elle voit des taches sur son corps, elle va vite voir le médecin de famille, le médecin de famille l'envoie rapidement après les prises de sang à l'hôpital Saint-Antoine, elle a un cancer, ce qui n'a rien à voir avec les grossesses. Donc, Elle est enceinte du septième enfant, les professeurs vont essayer d'évaluer la maladie si on provoque l'accouchement, ça peut être possible. À un moment donné, il va falloir que je mette des pompons dans 3 jours rapidement. Aller voir ma femme à l'hôpital, aller voir mon troisième garçon qui est en couveuse, et rentrer le père vivant chez moi à la maison, parce que la plus grande n'a que 8 ans. Ce calvaire va durer 2 ans. Le 11 mars 2004, ma femme va décéder de cette maladie. À ce moment-là, j'ai un choix de vie, puisque la plus grande n'aura que 10 ans au niveau des filles, puisque c'est 19, 17 au niveau des filles, si vous avez les garçons. Et donc, j'ai décidé de prendre un autre travail, j'ai décidé d'être père au foyer à plein temps. Mais à partir du moment où j'ai décidé d'être père au foyer à plein temps, mes finances descendent. Et donc, les seules vacances que je vais avoir, c'est les allers-retours Paris-Trouville. Pourquoi Paris-Trouville? Parce que c'est la plage la plus proche de Paris. On fait les allers-retours. Et une fois, il fait très chaud, il n'y a pas un brin de vent, et je ne sais pas pourquoi, je me balade sur la plage de Trouville, et je vais avoir des frissons dans tout mon corps. Ça ne m'est jamais arrivé. Et je ne sais pas pourquoi, j'annonce comme ça aux enfants, le cas d'une anesthésie en train de mourir à l'hôpital. Lui, je ne l'avais jamais rencontré. Bon, j'avais entendu parler de lui, mais je ne l'avais jamais rencontré. Je rentre à la maison, une fois que j'ai couché les enfants, je cherche sur la clé et son phare du cardinal mystigé, et je tombe sur la chaîne 4. Et la chaîne 4 parle de la mort du cardinal mystigé. Pourquoi? Parce que le jour qu'il m'est arrivé cette expérience sur la plage, on était le lundi 6 août 2007, et lui, il est mort le 5 août au soir. Alors là, j'ai dit, bon, il y a un signe qui est très fort, peut-être faudrait que j'aille voir un prêtre. Pardon. Mais comme on est au mois d'août, je me dis que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas ce que le Seigneur me demande. Quand j'amènerai les enfants à l'école, au lieu de rentrer chez moi, j'irai à l'église, voir un prêtre et discuter avec lui. Des fois, on décide une chose, et des fois, le Seigneur, il pense autrement. Il fait les choses autrement. Arrive le mois de septembre. Donc, j'ai décidé, demain matin, j'accompagne les enfants à l'école, je ne rentre pas chez moi, j'irai voir un prêtre dans une église. Le Seigneur n'a pas voulu que j'aille voir un prêtre dans une église. Je vais dormir et je serai réveillé à 2h du matin avec des frissons dans tout mon corps, les mêmes que j'ai sur la plage. Et j'aurai la présence de Jésus dans ma chambre. Et je lui parlerai comme Dieu vous parle. Donc lui, il a choisi de chercher un autre chemin. Pourquoi? J'en sais rien. Je serai là-haut, peut-être je le saurai. Mais en tout cas, donc j'aurai la présence de Jésus dans ma chambre. Et je lui parlerai comme Dieu vous parle. Ce qui va se passer, c'est que moi, je vais me rendormir jusqu'à 7h du matin. Or, à 7h du matin, je me lève pour préparer le petit déjeuner et préparer la maison. Et donc, je prends la casserole hyper serrée, parce que la première chose que je me dis, c'est que je vais être hyper fatigué. C'est pas possible. Or, paradoxalement, je constate une chose, c'est que j'ai pas une fatigue supplémentaire. Je reçois pas une fatigue supplémentaire. Bon. Les choses se passent comme ça, et tout d'un coup, lorsque je prends les enfants, je vais ramener à la maison à ce temps, je vais la filer avec eux. Et sur la chaîne de Arte, on essaie de voir quelque chose, on essaie de voir intéressant sur la chaîne de Arte. Et en 2007, sur la chaîne de Arte, passe toute la vie du futur Jean-Paul II, Carole. Donc on est en train de regarder ça avec les enfants. Et qui va attirer Jean-Paul II, en vérité, à la prêtrise, c'est parce qu'au départ, il n'est pas attiré du tout à la prêtrise, c'est parce qu'il y a laïc qui va lui donner un livre de Saint-Jean de la Croix. Bon, moi, Saint-Jean de la Croix, ce n'est pas les auteurs que je lis, mais comme je suis fasciné quand même par la croix et par la personne qui est pendue sur la croix, j'ai dit, bon, ben, je vais acheter cet auteur. Dans ma tête, je me dis, bon, où est-ce que j'ai trouvé ce bouquin? Je vais aller à Saint-Lazare, à la FNAC. Moi, je ne connais pas de libraire catholique. Ni catholique, ni protestant. Voilà. Donc, je me dis, je vais aller lire à la FNAC à Saint-Lazare. Là-bas, il doit y avoir quand même, voilà, une grande librairie. Donc j'y vais, mais j'y vais pas comme ça, je vais avec le château, je suis là-bas. Je vois le libraire. Bonjour monsieur le rabbin. Est-ce que s'il vous plaît, vous avez dit de Saint-Jean de la Croix? Déjà le mec, il doit être très con, il est étonné qu'un rabbin demande de Saint-Jean de la Croix. Bon. Il dit, monsieur, il faudrait bien la procure. Moi, je ne sais pas ce que c'est la procure. Moi, ça ne ferait pas j'entends le mot procure. Je fréquente pas les lieux. Et regardez l'Esprit Saint. Je dis franchement, l'Esprit Saint, il faut le vivre, tac, dans le quotidien. Moi, je ne suis pas contre de vivre l'Esprit Saint comme ils font dans les communautés, entre guillemets, soi-disant charismatiques. Je n'ai rien contre les communautés soi-disant charismatiques. Je dis soi-disant parce que ce n'est pas ce qu'on appelle communauté charismatique qu'on a des charismes. Les charismes, l'apôtre Paul, il le dit comment le reçoit. Et c'est que tu rentres dans une communauté que tu as un charisme. Ça, c'est humain. C'est l'intelligence humaine. Ça ne sort pas de la parole de Dieu. Il faut faire attention, l'autorité, c'est la parole de Dieu. L'autorité, ce n'est pas l'intelligence humaine, la sensibilité humaine. Ça, c'est hyper important, on ne peut pas faire du n'importe quoi. L'autorité, c'est la parole de Dieu. Même Saint Thomas d'Aquin, c'est grave, je dis un petit peu Saint Thomas d'Aquin, vous dites grave, la parole de Dieu, c'est celle qui fait autorité. Alors, c'est pas les gens, guillemets, soi-disant charismatiques. C'est pas une comédie qui s'appelle charismatique, ou un chant de l'Esprit Saint, qu'elle a reçu des charismes. L'apôtre Paul lui dira, l'autre reçoit le charisme de ça, l'autre reçoit le charisme de ça, l'autre reçoit de chacun, reçoit un charisme. Et toi-même, même quelqu'un qui ne trouve pas une communauté du renouveau, alors un chrétien qui ne va pas se trouver dans une communauté du renouveau, le Seigneur va lui donner des charismes. Donc c'est vous qui avez dit, c'est vous qui avez décidé où est-ce qu'on reçoit les charismes. Non, c'est de la folie ce système. Non, c'est de la folie ce système. Vous allez décider à la place du bon Dieu, et vous allez décider au bon Dieu, que pour recevoir un charisme, il faut rentrer dans une communauté nouvelle. Ou une communauté. Mais attends, il n'a pas dit ça le bon Dieu. On va mettre des conditions au bon Dieu. À quelqu'un qui est en train de. Quelqu'un simplement qui est chrétien. Quelqu'un qui est catholique, qui fréquente un diocèse, qui est dans une église, lui il n'a pas le droit de recevoir les charismes. J'ai décidé, il n'a pas le droit. Bah non, il n'est pas rentré dans une communauté nouvelle. Donc il n'a pas le droit. Ah mais attends, mais c'est quoi ce truc là où je suis tombé moi? C'est quoi ce raisonnement? Regarde la parole de Dieu, c'est pas comme ça. Donc, et je comprends pas, moi je me dis la procure. Je comprends rien du tout. L'Esprit Saint, on le vit dans le quotidien. Vous l'avez reçu l'Esprit Saint. L'apôtre Paul lui dira aux Corinthiens, n'oubliez pas sur votre corps le temple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. À chacun d'entre vous. Communauté ou par communauté. On a tous, mais tous le temple de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, ça se vit dans le quotidien. Franchement, le libraire, j'ai dit aussi, excusez-moi l'expression, mais je ne sais pas ce que c'est la procure. Quoi? Vous demandez à Jean de la Croix, vous ne savez pas ce que c'est la procure. J'ai dit, monsieur le libraire, excusez-moi. Je n'ai pas le temps de vous raconter ma vie. Est-ce que vous pouvez m'indiquer la station de métro et l'adresse de la procure? Et lui va m'a donné la station de métro et l'adresse de la procure. Vu l'heure, je rentre chez moi, il est trop tard. J'irai dans le courant du mois de septembre. J'arrive à la procure dans le courant du mois de septembre. Dès que je rentre dans la procure, je me dis, ça y est, je connais cet endroit, j'ai déjà mis les pieds. J'ai dit, vu mon itinéraire, c'est impossible. Je vais aller voir le libraire. Il n'y a pas d'hasard. Providence divine, l'Esprit Saint se souffle. C'est pire qu'un laser, ou mieux qu'un laser. Voilà. Il est libraire, je sais pourquoi. Bonjour madame, bonjour monsieur le radin. Est-ce que vous avez dit le Saint-Jean de la Croix? Elle est toujours à la procure, la dame. Est-ce que vous avez dit le Saint-Jean de la Croix? Elle me dit oui, monsieur, nous en avons plein. Ah, merci madame, où est-ce que ça se trouve? Elle me dit dans le rayon des saints. Moi, je comprends rien. Alors, moi, dans mon langage, je dis madame, j'ai pas compris, excusez-moi, pourquoi vous parlez de vos saints? elle a compris, j'ai compris le mot, j'ai entendu le mot, j'ai pas compris le mot qu'elle voulait dire dans le mot. Et des fois même dans un couple c'est comme ça, tu dis un mot, la femme va comprendre quelque chose, elle comprend quelque chose. Et même dans les histoires entre les gens, il a dit un mot, mais tu as compris de travers. Bon, moi j'ai compris en fonction de ce que j'ai entendu. Alors je dis madame, mais pourquoi vous me parlez de ça, de vos saints? Alors elle défend du public, elle est sympa, elle me dit j'ai compris, monsieur Rabin, je vous explique comment ça fonctionne chez nous, c'est très simple. Elle me montre le rayon des saints et des saints. Elle me dit, voilà, Saint-Jean de la Croix, prenez ce que vous, voilà, vous voulez. Je tire un livre, Providence divine. La vie de Saint d'amour. Jean de la Croix. Jean de la Croix a écrit ce livre pour des laïcs. Il explique, là-bas l'amour entre l'Esprit Saint et notre âme. La relation amoureuse qui existe entre l'Esprit Saint et notre âme. Jour sur place, le livre, j'ai dit ça, je me rappelle quand est-ce que je suis venu ici. J'avais fait un songe. J'avais rêvé que j'étais en train de lire son bouquin. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter tous les livres de Saint-Jean de la Croix et de la poche. Pour commencer. Mais après, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'aille voir quelqu'un. La différence entre un juif et un catholique. Un juif, il n'a pas honte des juifs. Un catholique, il rase les murs. Ouais. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous rasez les murs. Alors peut-être la culture, peut-être j'en sais rien votre histoire, mais les juifs, ils ont souffert, ils sont en exil. Mais ils ne rasent pas les murs. Un juif. Même à 200 mètres, tu ne le vois pas, tu l'entends parler. Tu l'entends parler, tu t'exiges, tu vas lui parler, lui poser une question sur la Torah, il va te répondre. Un cateau, il rase les murs, tu ne sais pas, si tu veux lui poser une question dans le métro, tu ne sais pas si c'est cateau, si c'est pas cateau. Donc moi, dans la librairie, je cherche les cateaux. Pour s'ils peuvent m'indiquer où je peux parler avec un prêtre ou avec quelqu'un. Et j'en trouve pas. Et donc ce que je vais faire, je vais repartir voir la libraire, la personne qui m'a aidé. J'ai dit, madame, vous connaissez, j'apporte le bouquin, vous connaissez des personnes qui suivent ce chef-là, je ne sais pas comment on disait à l'époque, hein, je n'en sais rien, ce fils. Il me dit, monsieur, vous cherchez des carmes. Moi, j'ai rien compris le mot carme, c'est la première fois que j'entends ça, le mot carme. Je lui dis, madame, je cherche quoi? Elle me dit, monsieur, vous cherchez des carmes. Je dis, ok, madame, je cherche des carmes. Et alors, madame, elle dit, bah, vous avez comment de la chance? Je dis, madame, vous n'avez pas de la chance, la providence divine, madame, vous croyez pas en bon Dieu. Donc, je me dis, madame, t'as tout dit, vous parlez de chance. Elle me dit, je lui dis, madame, mais pourquoi vous me dites ça? Elle me dit, parce que moi, je suis noblat carmélite. J'avais l'esprit ça un peu. Ils ne sont pas tous cathos à la procure, ils ne sont pas tous au blas carmélite. Et moi, je n'ai rien compris au mot. Ni au blas, ni carmé. Donc je dis, madame, vous êtes quoi? Et elle me répète. Et je dis, madame, c'est super, madame, qu'est-ce que je vais faire avec ça maintenant que vous êtes au blas carmélite? Moi, je ne comprenais rien. Alors, elle me dit, est-ce que vous voulez rencontrer un prêtre? J'ai dit, oui, très bien. J'ai 44 ans à l'époque. J'étais tiré vers le Christ, là j'ai 8 ans. Il était pasteur, le bon Dieu, il m'a fait 36 ans pour rencontrer un prêtre. Frère Yannick, il était à Paris, il est allé, il était prière de Havre avant. On va discuter sur Saint-Jean-de-la-Croix au départ. Ce que Saint-Jean-de-la-Croix, il développe, moi je lui ai apporté ce que je comprends, il lui a apporté ce que je comprends. Que la peine a commencé à m'évangéliser. Il va me dire, sache une chose, l'Ancien Testament prépare le nouveau c'est la plénitude. T'as mon numéro de téléphone, tu peux m'appeler si tu as des questions. Bon, très bien. Je sors de cet entretien et je vais chercher mes enfants. Dans la rue, je suis en train de réfléchir dans ma tête où est-ce que l'ancien prépare le nouveau. Et moi, je ne vois pas que l'ancien prépare le nouveau. Donc je dis peut-être que j'ai zappé quelque chose, donc j'en sais rien. Je rentre chez moi à la maison. Lorsque je rentre chez moi à la maison, une fois que je me suis occupé des enfants qui sont couchés, je revisualise tout l'Ancien Testament. Du premier mot au dernier mot. Et je vois qu'il n'y a rien. Il m'a dit, je peux l'appeler, je l'appelle. Mais moi, je ne connaissais pas le programme des carmes, qui se couche tôt et qui se lève très tôt. Donc, à Paris, vous savez très bien, un samedi soir, à Paris, 11h, on voit, on n'est pas encore couché. Bon, eux, ils dorment tôt, ils se lèvent tôt, moi, je ne peux pas savoir. Donc, j'appelle. Et j'entends sonner. Voilà, il ne répond pas. Alors, je dis, bon, ça va, j'appellerai dans une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis, voilà. Et c'est ce qui va se passer, donc je le rappelle. Donc je sens que je l'ai réveillé, mais moi je ne connaissais pas son programme. Et j'ai dit, c'est bon Yannick, je te rappelle demain. Il me dit, non, c'est quoi ta question? Il est très simple. Tu m'as dit que l'ancien prépare le nouveau? Très bien, pas de problème. Tu peux me montrer où est-ce que c'est écrit? Dans l'Ancien Testament, que le Messie descend de la Vierge. Il me cherche, où c'est écrit? Première question. Deuxième question que je lui pose, j'ai appris que vous, catholiques, vous croyez que Marie a déjà vécu sa virginité après avoir enfanté. Alors je vous dis quelque chose très simple. Comment le bébé est? Non mais attends, c'est concret, c'est pas du New Age, non. Moi je veux bien. Mais attends, sinon c'est du New Age, votre truc là. Moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Il faut que ça soit quand même concret. D'accord? Parce qu'en plus on est une religion d'incarnation. Donc je vous dis quelque chose simple. Concret. Un, préparation. Deux, comment le bébé est? C'est tout, moi je veux savoir ce qui s'est passé au niveau organisme, médical, au niveau du corps, par rapport à la vierge Marie. C'est une question simple. Bon. Réponse du cadre. Pour la première question. Réponse du cadre pour la première question. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit la prophétie d'Isaïe. La vierge va enfanter, tu appelleras Emmanuel. Et j'ai dit, mon frère, à l'époque, j'ai dit, mon frère, ça marche pas ton truc. Il me dit, quoi? Et j'ai dit, ouais, parce que les catholiques, malheureusement, ils ne se posent pas de questions quand ils lisent la Bible. Pour eux, c'est tellement normal qu'ils ne se posent même plus de questions. J'ai dit, mais ça marche pas ton truc, ça ne peut pas marcher. Il me dit, pourquoi? Je dis, c'est très simple. D'abord, c'est un langage biblique. Lorsque le prophète Isaïe parle au roi Achaïe, et qu'il lui dit, la Vierge va enfanter, et tu l'appelleras Emmanuel, tu peux retrouver dans l'Ancien Testament d'autres références avec les mêmes promesses. Exemple très simple, vous prenez simplement Abraham, où Dieu parle à Abraham et dit « ta femme va enfanter, ta femme va enfanter, ta femme va enfanter ». Bon, alors, c'est-à-dire que Sarah, elle a pas une relation avec son père, avec son mari, quand elle a enfanté Isaac, que c'est le fils de la promesse, et que Paul dit que c'est le fils de la chair d'Ismaël. Donc Sarah, elle a pas enfanté, elle a enfanté par miracle. C'est l'Esprit Saint. C'est ça peut-être qui est écrit dans les versets. Dieu s'est souvenu de Sarah et elle a enfanté. Donc Sarah, je peux dire la même chose, qu'elle a enfanté de façon miraculeuse, qu'elle a fait une relation. Pourquoi avec Sarah, je ne peux pas le dire, et avec Abraham, je pourrais le dire. Maintenant, j'ai dit très simple, est-ce que Marc, il en parle? Non. Est-ce que Luc, il en parle de cette prophétie? Non plus. Est-ce que Jean en parle de cette prophétie? Non plus. Est-ce que Paul en parle de cette prophétie d'Isaïe? Non plus. Ça peut être une prophétie très intéressante, ou très importante. Est-ce que Jude, l'épître de Jude en parle? Non plus. Est-ce que Pierre en parle dans ses écrits? Non plus. Est-ce que les épîtres de Jean en parlent dans cette prophétie? Non plus. Est-ce que dans l'Apocalypse on en parle? Non plus. Personne n'en parle. Qui c'est qui en parle? Un collabo qui s'est converti au Christ. À l'époque, c'est un collabo, Mathieu. Oubliez. Ben oui. Donc, il faut pas qu'il faut être concret. Sinon, après, tu dis « ouais ». Il faut être concret. Donc je dis pas qu'il y a un collabo qui s'est converti au Christ, ça, 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 alors c'est tu adhères. Moi je veux une question très simple. Est-ce que Jésus lui-même, est-ce qu'il va utiliser cette prophétie pour essayer de justifier ou prouver aux pharisiens qu'il est le Messie? Non. Alors pour que tu te prends toi, tu l'utilises. Parce que Matthieu l'utilise. C'est des questions simples. De texte. Pas théologie, ni mystique, ni spirituelle. Tu lis le texte, tu poses des questions, tatati, tatata, et puis voilà, c'est tout, tu discutes et ta parole. Réponse du calme. J'ai prié pour toi. Et pour la deuxième question, il me dit, je suis prié pour toi. D'accord, merci mon frère. Par exemple, c'est ma réponse, c'est ma réponse. Hein. Je n'ai pas le forcer à me donner une réponse qu'il va me donner, ou qui, voilà, il n'y a pas de réponse.
10 minutes.
10 minutes. Donc je me suis, on va sauter, d'accord. Donc, ensuite, j'ai rencontré les petites sœurs de Bethléem, place Victor Hugo. Il y a un monastère à place Victor Hugo. Elles vont m'inviter pour Noël. Elles vont me dire, est-ce que tu veux venir Noël, tu manges avec nous, tu fais la messe avec nous. J'ai dit, ok, une seule condition madame, c'est que moi je mange cachère. À l'époque, je mangeais cachère. Donc là, je mange cachère. Elle me dit, pas de problème, on fait cachère. Je raconte quand même la scène, c'est intéressant. Parce que regardez, on est Noël. Elle a dit que je suis juif, que je suis juif. Dans l'église catholique, malheureusement, on ne communique pas au corps et au sang. Soit disant parce qu'il y a trop de monde. Il n'y a pas de place, il y a trop de monde. Moi j'ai trouvé une solution pour dire qu'il y a trop de monde, qu'on peut communiquer quand même au corps et au sang. J'ai trouvé une très bonne solution. Alors on m'a trouvé comme réponse, vous mettez le corps, t'as la plénitude. Il n'y a pas de plénitude avec le corps. Si le Christ l'a dit au corps et au sang, tu ne vas pas inventer des choses qui ne sont pas écrites. Jésus l'a dit au corps et au sang. Et toi tu me dis, je dis, putain, mais plus de business que les juifs. Tu me dis avec le corps, ça suffit à la plénitude. Tu dis au milieu et au corps et au sang, toi tu me dis qu'avec simplement avec le corps et la plénitude. Mais une solution très simple pour pouvoir que les gens puissent recevoir la communion au corps et au sang. Mais c'est pas le problème, on pourra en parler. Bon, j'arrive à la messe. Et elle sait que je suis juif. Chez les monastères, on peut communier au corps et au sang. Donc chez les moniales, vous pouvez communier au corps et au sang. Moi j'arrive, je me mets en rang, comme au sacrifice de mon âme. L'église, elle est remplie. L'église est remplie. Moi, j'arrive. Le prêtre qui est à l'extérieur, il y a les sœurs dont elle, la prieure qui tient le Saint-Sang, et il y a le prêtre. Moi, j'arrive, il y a un peu des gros hommes, regarde. Plus j'avance, plus elle me regarde. Elle m'en a expliqué qu'elle était religieuse, qu'elle est... Je veux dire, pourquoi elle me regarde comme ça? Je ne sais pas. Moi, jamais. Alors, j'avance. Et puis, je ne comprenais pas ce qu'il faisait des gâteaux, parce qu'il était debout. Il prenait comme ça, il était comme ça. Moi, j'avais été invité, je me rappelle de ma mémoire, au sacrifice de mon âme. On se met à genoux, tac, on reçoit, puis voilà. Donc déjà, imagine-toi, je suis seul à se mettre à genoux, dans l'église, devant tout le monde, comme au Sacré-Cœur. Et je prends le Saint-Sang, le sang du Christ. Deux heures après, parce que la messe est très longue chez eux, elle dure au moins deux heures, on tape dans ma cellule, dans la chambre. Elle me dit, est-ce que je pourrais te parler, parce que c'est hyper important. Je dis, madame, demain, il y a une messe, on pourra discuter. Elle me dit, non, non, demain, c'est parce qu'il y a une messe, ou parce que moi, je te parle avant. Alors c'est bon, mais on va discuter. Vous avez des gâteaux, un café, voilà. Elle me dit, Elie, qu'est-ce que tu as fait à la messe? J'ai dit, madame, qu'est-ce que j'ai fait à la messe? Elle me dit, t'as communié. Moi, je comprenais rien au mot. J'ai dit, madame, j'ai fait quoi? Elle me dit, t'as communié. J'ai dit, madame, excusez-moi, excusez-moi, vous ne pouvez pas parler français, je comprends. Elle me dit, t'as pris le corps du Christ. Alors je dis, madame, mais ça va, vous n'appelez pas, madame, ce corps du Christ, madame, ça fait des années, je le prends. Et même des fois, madame, je dis, franchement, je le prends deux fois par jour. Voilà. Elle s'est affolée. Je dis, madame, vous n'appelez pas, si vous n'avez pas dit, vous ne l'aurez pas su. Alors je dis, madame, ben, prenez le deux fois par jour, vous verrez ce que ça vous fait. Elle me dit, comment tu fais deux fois par jour? Bon, je lui explique comment je fais deux fois par jour, comme le temps tourne, on me demande d'arrêter, donc je veux encore raccourcir. Et je vais aller donc à ma préparation de baptême. Oh le prêtre. Parce que moi j'ai plein de questions, le prêtre ne me répond pas. J'ai plein de questions que le prêtre ne me répond pas. Et là, c'est hyper important. Le regard des catholiques sur l'Ancien Testament, il est faussé. Totalement faussé. Et je suis en train d'écrire un livre sur ça. C'est pas de l'orgueil, je vous dis clairement, vous prenez comme vous voulez. Il est totalement faussé. Pourquoi? Parce que vous prenez simplement qu'une dimension de l'Ancien Testament. Celle qui fait préparer au Jésus-Messie. On va essayer de voir les préparations, où est-ce qu'on voit dans l'Ancien Testament le Jésus-Messie. Donc on essaie de voir dans l'Ancien Testament où est-ce qu'on voit la nature humaine de Jésus. Mais les catholiques n'en cachent pas dans l'Ancien Testament où est-ce qu'on peut voir les préfigurations à l'incarnation de Dieu. Ce Jésus-là, c'est d'abord l'incarnation de Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, on doit voir deux choses. La dimension divine et la dimension humaine de la personne de Jésus. Ou la dimension divine et la dimension humaine de la deuxième personne de la Trinité qui va s'incarner. Si je m'arrête simplement sur une seule dimension, je coupe Jésus en deux et je prends tout simplement que la dimension temporelle de l'Ancien Testament. Or, mes questions que moi je vais poser ne vont pas être sur la nature humaine de Jésus, mais sur la nature divine. D'ailleurs, c'est ce qui a choqué les Juifs. Vous prenez l'apôtre Jean, le premier chapitre qui parle de la divinité du Christ. Le deuxième chapitre de Jean, il parle de quoi? De la divinité du Christ. C'est Cana avec sa gloire. Le troisième chapitre de Jean, c'est quoi? C'est Nicodème. C'est la divinité du Christ, la naissance d'en haut. Le quatrième chapitre de Jean, c'est quoi? La Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, toi tu m'aurais demandé à voir la divinité du Christ. Chapitre, cinquième chapitre de Jean, il parle de quoi? La première interprétation que Jésus va avoir fait juste, non seulement il ne respecte pas Shabbat, mais en plus, il se prend pour l'égal du Père. Donc moi, je vais poser plein de questions par rapport à la nature divine du Christ. Et je n'ai pas de réponse. Dans l'Ancien Testament, où est-ce que je vois des préfigurations à l'incarnation de Dieu? Et donc, moi, je dis, je ne peux pas aller au baptême comme ça, c'est pas possible. Je ne peux pas recevoir le baptême, il y a des choses qui sont incohérentes. Donc une fois, je n'arrive pas à dormir, il est minuit, je vais parler à Jésus directement. Et je parlais à Jésus directement. Et j'ai dit, voilà. Franchement, Jésus, t'es 10 kilos. T'as vu ce que t'as fait à Paul? Je suis pas jaloux. Mais t'as vu ce que tu as fait au chemin de Damas? T'as rien demandé. T'as même pas demandé un miracle. T'as rien demandé. Lui, au chemin de Damas, il va t'appeler l'esprit, toi, t'interviens à plaque. Toi, tu m'as mis le désir dans mon cœur. Alors, tu fais quelque chose dans ma tête comme Paul, ou pas comme Paul, tu fais ce que tu veux, tu vas acheter les livres, ou sinon, tu me laisses tranquille. Mais moi, j'ai posé telle question à tes prêtres, je ne sais même pas si tu utilises la Bible. Comme ça, je lui parle. Parce que je pose d'autres questions et je n'ai pas de réponse. Réponse de Jésus. Silence radio. C'est normal. Jésus ne peut pas répondre directement. À part des révélations. Et même s'il parle par révélation, Jésus ne peut pas répondre directement. Vous savez pourquoi? C'est écrit dans les évangiles. Je vais remonter, je vais envoyer. C'est à travers l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui vous témoignera de moi. C'est l'Esprit Saint qui vous donnera toute la vérité. C'est l'Esprit Saint qui vous fera avancer. Et quand on a une révélation du Christ, c'est toujours à travers l'Esprit Saint. Donc 3 jours après, l'Esprit Saint, un coup de téléphone, la prière de Bethléem m'invite à me demander si tu veux venir pour la prendre côte avec tous tes enfants. Je dis oui, madame, ok. Il n'est pas à Paris, il n'y a pas de place. Elle dit, t'inquiète pas, on va t'arranger Fontainebleau. Fontainebleau, il y a toutes les petits ermitages. J'arrive, j'ai des soirs. Vendredi matin, je rentre dans un oratoire. Il y a une très grande icône du Saint-Suaire. Je sais pas si vous connaissez le Saint-Suaire, c'est la Sainte Face. Je rentre dans cet oratoire-là, et tout d'un coup, les prétons vont revenir. Et sur cette icône-là, sur cette image, les yeux du Saint-Suaire vont s'ouvrir. Et en fait, ça va se réaliser à 2 reprises. Et donc, c'est à ce moment-là où j'aurai ma conversion, où j'aurai mon illumination. J'ai suivi, parce que voilà, par rapport au temps, souvent je rejoins sur le matin le 14 septembre 2018. J'écris 2 autres livres, c'est « Oser être soi-même, finalité d'incarnation ». Et j'écris un 3e livre qui s'appelle « Ainsi s'accomplit les Écritures, guide de formation pour la transmission ». Pour ceux ou celles qui sont intéressés, sachez que je donne des enseignements à Paris, à Espace Bernanos, c'est à côté de l'église Saint-Mildentin. C'est le lundi 27 juin, pour cette fois-ci. Généralement, pour l'année prochaine, c'est deux fois par mois que je donne. Donc vous allez sur le Space Bernanos, vous pouvez trouver mon nom et vous verrez. Et je donne aussi des enseignements à la radio. Radio Espérance qui se trouve sur Internet, mais vous pouvez aller sur le net tous les lundis soirs à partir de 20h45. Et pour ceux ou celles qui sont intéressés, il y a encore des places, j'organise des vacances chrétiennes du côté de la Bretagne, dans de la Manche, du 23 juillet au 30 juillet, la session va être sur la puissance du nom de Jésus. Et pourquoi j'appelle ça vacances chrétiennes? Parce que le matin, il y aura louange avec des enseignements, et l'après-midi, ça sera libre. Les gens pourront aller se baigner. Et le soir, il y aura des activités. Voilà. Je vous remercie. J'espère que j'ai été assez rapide. Merci.
C'était vraiment précieux pour nous. Alors, d'abord, je vais faire circuler une enveloppe, parce que celui qui vient qui vit avec les paroles du Seigneur mérite la chaleur. Donc, je circule la chaleur, soyez généreux.
Pour monsieur. Je vous remercie pour votre générosité.
Alors, voilà, toutes les informations que M. Sepon a données, je vais peut-être envoyer à M. Sepon. Et voilà, donc, pour la question, en fait, je vais limiter à la question, trois questions. Donc, voilà, je laisse le temps. On va prendre à peu près 5 minutes ou au maximum 10 minutes.
Une question
là-bas. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. C'est Ronald, est-ce que tu te parles? Je voudrais savoir quand vous avez lu Jésus. Comment vous avez lu cet évite? Puisque, enfin, voilà. C'est au-delà du rationnel. Quand tu fais une certaine présence, c'est une présence. Voilà. Il y a 2 heures du matin, tu te réveilles comme ça, t'as des frissons. Voilà, je me suis protégé, j'ai dit j'adore. Voilà, c'est pas séparation, je peux pas mettre des mots sur tout. Ça dépasse les mots, tu vois.
Est-ce qu'il y a des apparitions
Non. Il y a eu des apparitions plutôt dans les évangiles, mais à des grands sages. On dit voilà, qu'il y a le prophète Élie qui a apparu à certains grands rabbins pour leur enseigner des choses.
Et vous l'avez vu physiquement?
Non, je l'ai vu tranquillement. Là où la première fois il y a eu quelque chose de visible, c'est quand les yeux du Saint-Pierre se sont ouverts. Mais je l'ai dit encore une fois, moi c'est mon truc à moi. J'écris des livres. Je pense que ce qui est dommage, c'est que les catholiques restent trop dans le sensible, dans les images, dans les statues. Et que le Seigneur ne veut pas ça. Parce que le Seigneur, il est parti. Donc il a demandé de ne pas avoir... Il a dit, vous ne me verrez plus de façon sensible. Plus tu lis avec des images, plus tu lis avec des statues, moins tu laisses ta place à l'Esprit Saint d'agir. Parce que tu ne peux pas avoir qu'une seule pensée. Tu vois? Alors après que le Jésus lui se révèle de manière sensible à certaines personnes, c'est lui qui prend sa liberté, tu vois.
Est-ce que
c'est
les relations avec les juifs
messianiques? Alors, je les ai rencontrés il n'y a pas longtemps, et j'ai rencontré aussi les juifs pour Jésus aussi, il n'y a pas longtemps. J'ai rencontré aussi les courants évangéliques, parce que je travaille dans ça, donc je suis parti en Arcimée qui donnait des enseignements, je suis parti au Seigneur de Maurice, et donc j'ai été invité par les diocèses de l'Église catholique. Et je ne sais pas pourquoi, dans le groupe, je ne sais pas comment c'est arrivé, bon, le téléphone arabe fonctionne correctement, j'en sais rien, il y avait pas mal d'évangéliques dans l'église où j'ai donné, et après, voilà, ils m'ont attrapé, ils m'ont demandé si je voulais intervenir chez eux aussi. Voilà, donc je commence à être en contact aussi avec des évangéliques. J'étais en contact aussi, j'ai toujours été en contact avec des orthodoxes, parce que je suis parti donner aussi des enseignements à Saint-Serge.
Troisième question.
En fait, moi, je n'ai pas bien compris sur la divinité de la Vierge Marie, parce que Jésus, il a été conçu par la parole. On dit que le Verbe était cher, par... bon, mais vous avez parlé de la divinité, est-ce que après, ou je ne sais pas, après la naissance de Jésus, est-ce que la Vierge est, bon, je ne sais pas si vous dirais bien, parce que ça fait confusion dans mon esprit, donc je
suis catholique.
Oui, je suis catholique.
Laquelle est catholique qui croit? D'accord. Au-delà de la raison humaine, qu'après la naissance de Jésus, Marie restait vierge.
Oui, en fait,
c'est de l'ordre de la croyance. Donc ça ne doit pas être compris dans ton esprit, si tu es catholique.
En fait, forcément, c'est ce que vous avez dit.
Peu importe ce que je dis.
Oui, pour moi,
voilà.
Elle est restée vierge.
Voilà.
Et dans votre...
Moi, j'avais une question, j'ai pas eu de réponse.
Ah, d'accord.
Voilà, c'est tout.
Alors, Nicolas, tu es intervenu?
Non. Là, par rapport à cette question, voilà, enfin, donc, c'est une question qui a été discutée par des théologiens romains dans les années 50, voilà, et donc évidemment ça devenait un peu scabreux, voilà. Et donc il y a eu une déclaration de Jésus, donc voilà, en gros en disant que finalement dans la foi, enfin, c'était pas ça la question la plus importante. Voilà. En fait, enfin, ce qui était important, voilà, c'est l'identité divine de Jésus. Voilà, bon. Et que savoir pratiquement comment ça s'est passé chirurgicalement quand il est né, voilà. Donc rendre un peu bloqué en tout, je suis plus... Enfin, je pense qu'on s'intéresse à mêler des choses qui sont quand même plus fondamentales. Hein.
C'était pour ça que le cap a bloqué en tout.
Oui, je pense que ça ne fait pas
répondre. J'ai une question. C'est ça que vous voulez baptiser. Comment vos enfants ont vécu votre...
C'est une grâce aussi. Parce que les enfants, ils ont reçu. Donc ils ont après reçu le baptême au fur et à mesure.
D'accord.
Et voilà.
Votre famille?
Non, on a été renés. Donc ils ont très bien reçu aussi, de façon naturelle, parce que voilà, on est terminé, donc c'est dans l'ordre des choses.
On va limiter le temps, parce que après, il y a le temps de l'apéro, donc on peut pleinement poser la question librement, donc vous avez le temps. Maintenant, on va passer le partage de parole pour préparer la messe. Donc, alors, vous avez tous vos livres à petit livret, un crayon. Donc là, il y a un rendu de jour. Alors, c'est la page 130. Alors, la page 127. Voilà. Bon.
Merci, tu peux bien lire.
La première lecture, 125. Alors, lecture du livre. Prophète Zacharie.
J'explique juste pour ceux qui ne sont jamais venus, on va dire la parole, la première lecture, et puis les...